voix nue. Cette semaine, Jean-Christophe Brianchon rencontre Claude Zidi. Ce soir, souvenir d'un âge d'or du cinéma.
Claude Zidi, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Nous avons hier envisagé ensemble les 15 premières années de votre carrière de cinéaste à la suite de votre formation théorique à l'école Vaugirard. 15 années au service de la technique et riche de collaborations hors normes entre un compagnonnage fidèle avec Claude Chabrol sur plus de 10 films, mais aussi d'autres expériences sur des tournages devenus légendaires comme celui du jour le plus long ou de la baisse des anges et de la religieuse aussi pour ne citer que des expériences qui prennent place jusqu'à l'orée de la décennie 70, laquelle sera l'objet de notre discussion aujourd'hui, pendant laquelle nous allons tenter de retracer le chemin emprunté par le jeune technicien que vous étiez alors, afin de parvenir à devenir le réalisateur à grand succès que vous êtes devenu, des succès que vous vous devez, puisque vous en êtes le seul artisan, mais qui sont aussi le symbole d'un âge d'or du cinéma que vous avez connu, et sur lequel nous allons également revenir. Encore beaucoup de choses à se dire donc, et parmi elles, le rapport que vous entretenez à cette technique dont on a parlé dans l'épisode précédent, une technique donc que vous avez acquise, et qui a beaucoup changé entre le moment de votre arrivée dans le cinéma et puis le moment où vous avez commencé à tourner en tant que réalisateur, parce que comme vous le disiez, vous avez commencé à tourner en noir et blanc, puis vous avez été un des seuls à savoir tourner en pellicule couleur.
Non. Un des seuls à pouvoir, pas tout, non, on était plusieurs quand même, à savoir développer des morceaux de films couleur, vous voyez, et à tirer un positif. Bon, après, ça s'est répandu, et puis... Voilà, mais tourner en couleur, effectivement, j'étais pas chef opérateur. Les premiers tournages en couleur, il y avait des chefs opérateurs comme Alcan, qui venaient du noir et blanc, qui était grand chef opérateur du noir et blanc, et puis il fallait se mettre à la couleur. Et il y avait des servitudes très particulières. Il fallait des quantités de lumière incroyables. Vous voyez, moi j'ai vu le plateau de Joinville où on tournait Marguerite de la Nuit.
Oui. Donc Joinville, qui était un studio important, un studio de tournage important de l'époque.
Oui, c'était un peu, des grands décors avec énormément de projecteurs et une chaleur incroyable, puisqu'on mesurait 65 degrés sur les passerelles où il y avait les projecteurs, vous voyez. Et les électriciens étaient obligés de redescendre régulièrement pour prendre ce qu'ils appelaient le frais, mais c'était, ils redescendaient vers les 40 degrés, quoi. Non, c'était des... Donc les chefs-op découvraient la couleur. Et toutes les... Voilà, la pellicule était très peu sensible, elle faisait 25 ou 50 ASA, quelque chose comme ça.
Pour vous, qu'est-ce que ça impliquait de différent? Vous disiez que vous aviez dû donc développer des pellicules
couleur. Oui,
alors
on me demandait de développer des petits bouts d'essai. À la fin de chaque bobine, je prenais un petit bout d'essai, un petit bout de film, et j'avais un petit laboratoire et je développais... Et je tirais une image positive avec une tireuse, oui. Et je venais montrer ça au chef opérateur. Et on vérifiait qu'il y avait une image sur la pellicule, parce que c'est pas toujours évident. Et qu'il n'y avait pas de rayures, parce que la pellicule était relativement sensible. Des rayures dorsales sur la face de la pellicule. Il n'y avait pas de poils dans la fenêtre. Parce que si vous aviez un poil dans la fenêtre, après en projection, vous aviez un truc comme ça qui bat de l'aile en haut de l'image, c'est très désagréable. Et à l'époque, il n'y avait pas de trucage numérique. Maintenant, on enlève ça, c'est très facile. Mais ça n'existait pas à l'époque. Avec une rayure, une belle rayure au milieu de l'image, il fallait refaire le plan.
C'est là qu'on se rend compte que le cinéma, finalement, c'est de la chimie aussi. Vous disiez que vous aviez eu des cours de chimie à Vaugirard.
C'était de la chimie, oui. Il suffisait de visiter un laboratoire à l'époque, ou des kilomètres de films qui traversaient des bains, etc. Vous voyez, oui, maintenant, c'est une autre chimie actuellement. Non,
vous avez vu d'autres changements, justement, s'opérer pendant ces années-là, pendant vos années d'activité, d'autres changements techniques? J'imagine.
Non,
le passage
pas trop,
au numérique.
Non,
déjà,
la pellicule. Non, d'abord la pellicule a évolué évidemment, puisqu'on est pas, on est monté jusqu'à une pellicule qui faisait 400 ASA, donc qui permettait de tourner dans des conditions de lumière plus faciles, plus légères. Vous voyez, voilà, entre autres. Et puis j'ai arrêté de tourner avant l'arrivée du numérique. ou à l'arrivée du numérique.
Et donc, des années de technicien, des années d'apprentissage qui vous mènent petit à petit vers la réalisation. D'abord, je crois que vous avez réalisé une publicité avec une grande célébrité internationale.
Oui, non, j'ai réalisé ça à un moment. Oui, j'ai réalisé une pub pour, c'était pour Renault, un financement Renault, avec Claudia Cardinal, oui, à Rome.
C'était votre première expérience de réalisateur ?
Non, j'ai fait beaucoup de pubs comme technicien, mais là j'étais metteur en scène.
Metteur en scène.
C'est la seule pub que j'ai faite comme metteur en scène.
Et alors, cette première expérience de metteur en scène, qu'est-ce qu'elle vous a amené à comprendre de ce métier que vous alliez embrasser ?
Non, la première expérience de metteur en scène, je l'ai faite pour la télévision. J'ai réalisé une petite émission de... un petit film de 10 minutes pour Dim Dam Dom. Oui.
Oui.
Voilà.
Une émission très populaire, déjà.
Oui, et très ouverte. La preuve, c'est que je n'étais pas du tout metteur en scène. Et un ami qui m'a proposé à la productrice, Lizzie Galard, je crois. Mm-hmm. Et elle a dit oui. Elle disait oui. Vous voyez, bon, c'est pas grave, vous n'avez pas fait de métier. Vous êtes, écoutez, vous avez un sujet, oui. Alors tournez-le. Et il y avait un budget, et j'ai tourné le. Et à un moment, j'avais peur de. C'est la première fois que j'allais dire moteur, vous voyez. J'ai eu l'occasion de refuser de le faire, parce que Chabrol, tout d'un coup, m'annonce qu'on part en Grèce tourner un film, La Route de Corinthe. Donc je suis revenu vers la production en leur disant, écoutez, je ne peux pas tourner le film parce que je pars dans 3 semaines en Grèce et tourner un long métrage. Ils m'ont dit, je ne pourrais pas le monter. Vous voyez, je ne pourrais pas faire la finition du film. Et elle me dit, mais tournez-le quand même. Donc, je l'ai tourné. Obligé de. Et un jour, je me suis retrouvé à dire moteur. Oui.
Et c'est. Et comment on devient metteur en scène, alors concrètement, une fois sur le plateau? Comment, à cet instant-là, vous êtes devenu metteur en scène?
Il faut. Heureusement, c'est bon. C'était un petit sujet. Comme ça, sur la mode. Mmh. Bon, vous dites la caméra là, et puis le mannequin, vous allez de là à là, et puis voilà.
Je crois que le désir de réalisation, il est venu comme ça, par des rencontres, mais aussi, je crois que j'ai entendu parler d'une fois où vous étiez à Cannes, et où vous vous êtes dit, tiens, peut-être pourquoi pas moi.
Ah oui, j'étais, je tournais La Religieuse de Rivette, et puis un week-end, j'étais à Cannes, c'était le festival, je me suis assis avec un copain... au bar du Carlton, la terrasse. Et puis, de temps en temps, on appelait quelqu'un au téléphone. Vous voyez, à l'époque, monsieur... Alors, je voyais l'homme... C'était quelqu'un de connu. Ah, tiens, je le connaissais pas. À quoi il ressemble? Bon, puis on a... Bon. Puis je me suis dit, finalement, il y a pas un physique de metteur en scène. Je veux dire qu'on peut être metteur en scène, quoi. Il n'y a pas... Bon, tout le monde peut être metteur en scène, quoi.
Il suffit d'avoir le culot.
Non. Non, pour être metteur en scène, du culot.
Il faut du culot, j'imagine, pour
j'ai
vous lancer.
Aucun culot, moi.
Vous en avez eu à ce moment-là?
Non.
Alors vous avez eu quoi? Que de la chance?
Oui. Oui, parce que j'ai pas décroché mon téléphone pour appeler quelqu'un, pour lui dire en disant je vais être metteur en scène. On est venu me demander d'être metteur en scène. Vous voyez.
C'est des rencontres, alors?
Oui, c'est des rencontres, exactement.
Il y en a une qui est importante, je crois.
Oui, j'ai travaillé comme chef opérateur avec Philippe Clerc. Et avant d'être chef op avec lui, j'ai travaillé sur son scénario. Il m'avait demandé, on s'était croisés comme ça, il m'avait demandé de travailler pour faire le découpage du scénario. Et en découpant le scénario avec lui, en discutant, je lui ai trouvé quelques gags qu'on a mis dans le film, etc. Après, j'ai fait le film comme chef op. Vous voyez, donc on a tourné pendant 5 semaines.
Ça, c'était la Grande Java.
C'était avec la Grande Java, exactement. J'ai rencontré les Charlots. Et ils m'ont demandé, à Michel Ardan, qui était producteur, de faire un film avec moi comme metteur en scène. Et un jour, Michel Ardan m'a appelé en me disant, écoutez... Est-ce que vous voulez faire un film comme metteur en scène? Je dis oui.
Peut-être que les comédiens avaient vu en vous déjà l'âme
Bah
d'un metteur
écoutez,
en
ils avaient
scène,
vu
alors.
quelque chose, hein. Voilà.
Quelle avait été l'ambiance sur le tournage de La Grande Java?
Mais on a tourné en 5 semaines, donc fallait vraiment, fallait s'activer, quoi. Voilà. Donc c'était, ouais, 5 semaines, surtout avec les Charlots quand même, puis ils sont 5, il faut déjà quand même un certain temps avant de les réunir devant la caméra, quoi. Que vous réussissez, vous en avez 4, mais il en manque un.
Ils étaient
Vous le
aussi
retrouvez le
dynamiques que
cinquième, vous le ramenez, et mince, il y en a un qui est parti. Mais bon, ça faisait partie du jeu, ça.
Ça a été donc un film sur lequel vous avez été chef-op, mais et donc aussi co-scénariste, un scénario
Un peu,
qui
oui,
s'est écrit.
j'ai trouvé quelques scènes, etc. Voilà.
C'était la première fois que vous écriviez un scénario?
Non, j'avais déjà écrit pas mal de. Surtout des notes, j'avais pris beaucoup de notes. Des notes de scène, d'idées de pitch de film, etc. De gags, beaucoup. Je notais ça sur des bouts de papier, quoi.
Par la suite, vous écrirez avec quelques collaborateurs fidèles, dont l'un que vous avez rencontré avant, je crois, qui est Didier Caminca, que vous avez rencontré sur un
Oui, on
film qui,
était.
lui, n'est
Il
pas
est.
resté dans l'histoire.
Non, bon, il y a eu énormément de films qui ne sont pas restés dans l'histoire. Mais bah, bon, ça c'est. Mais non, c'était un film qui s'appelait de Michel Dague, qui s'appelait Poussez pas grand-mère dans les
Grand-père dans
cactus,
les
ou
cactus.
grand-père. Ah oui, le deuxième aurait pu s'appeler grand-mère. Et voilà, bon, c'était un film assez fou. Moi, je l'ai jamais vu, c'est dommage, mais j'aimerais le. Voilà.
Vous avez rencontré Didier Caminca à l'occasion de ce tournage?
Il était comédien.
Et donc, ça a été important pour vous de sentir que peut-être des gens vous désiraient ou que les films pouvaient se faire par le biais de rencontres. Vous ne l'auriez pas fait seul, vous pensez? Au culot, comme je disais tout à l'heure?
Mais oui, non, jamais. Non. J'ai jamais décroché mon téléphone. Si vous voulez. Parce que d'abord, j'aime pas tellement téléphoner. Deuxièmement, je ne saurais pas comment me vendre. Vous voyez? Je préfère que ce soit les autres qui me vendent. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils connaissent mieux la marchandise que moi, quoi. Voilà. Moi, je suis incapable de dire, d'arriver en disant, écoutez, j'ai écrit un scénario formidable. Mais ça pourrait. Non, je peux pas.
Donc
Il
on
est peut-être
vous.
formidable, mais peut-être. Puis je le sais pas, en plus. On ne sait pas, hein. On écrit.
On le sait
Voilà.
pas, on le sait jamais, on s'en rend pas compte,
Non.
parfois, d'écrire quelque chose d'intéressant, d'important, peut-être.
On croit toujours qu'on fait quelque chose d'intéressant, évidemment.
Et donc après La Grande Java, donc on vous propose de tourner Les Bidas en folie, qui sera
Voilà.
votre premier
Voilà, Michel
succès.
Arnaud me dit, est-ce que vous avez. Il me téléphone un jour en disant, écoutez, les Charles sont d'accord pour tourner un film avec vous comme metteur en scène. Est-ce que vous avez une idée? J'ai dit oui. Mais écoutez, demain, vous me l'amenez, quoi, écrivez quelques pages. Et vous me l'amenez, on déjeune ensemble. Voilà. Alors j'ai écrit quelques pages d'une idée.
En une nuit, alors, pour le lendemain, vous avez
Oh, je n'ai
écrit un
pas mis la
pitch.
nuit pour les. Non, ça c'est. Non. J'ai trouvé l'idée, j'ai écrit un pitch de 3 pages, quoi.
Et après le scénario, donc tout s'est emballé très vite, le
Ah
scénario a
bah,
dû s'écrire vite aussi.
ça y est, tout le monde a été d'accord très vite pour faire le film. J'ai eu un mois pour écrire le scénario, et puis après, un mois et demi pour le tourner, quoi.
Alors ça a été le début d'une collaboration assez importante avec les Charlots, parce que d'autres
Fait
films
quatre films
suivront.
avec eux, oui.
C'est le symbole là aussi d'une époque, peut-être les Charlots, ça veut dire. Je sais que vous aimez pas qu'on politise vos films, malgré tout, c'est des films qui font preuve d'une forme d'insouciance et de légèreté qui peut-être veulent nous dire quelque chose de l'époque, non?
Non, c'est l'époque qui disait ça. C'est l'époque de post. C'était après mai 68. Hein. Toutes les années 70, ça a été des années assez très légères, très 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 jeunes, très que ça bougeait beaucoup dans toutes les directions. Ah oui.
Et
Très libre, des années très libres. Oui.
vous aviez envie que votre cinéma se fasse le passeur de cette liberté, vous aviez envie de la montrer, cette liberté?
Non, mais c'est inconscient. On écrit ce qu'on a envie d'écrire. Vous voyez, on n'installe pas comme ça des paramètres. Bon, on écrit ce qui vous passe par la tête. Voilà. Avec un esprit très, très décontracté, très, qui est l'esprit de l'époque.
Et j'ai lu une fois dans un entretien que vous aviez donné que vous parliez des comédies comme étant bien souvent des tragédies transposées.
Bon, c'est pas moi qui ai trouvé la formule. Hein, pas...
C'est une non. formule qui existe,
une vieille formule
mais vous l'avez reprise.
Je sais pas.
Ça s'applique au Charlot ou pas?
Non, c'est pas une tragédie transformée. Non, ça démarre sur l'idée de comédie quand même dès le départ.
Ça démarre malgré tout le plan d'ouverture du film sur les Jeux Olympiques. Ça démarre sur l'image de quelqu'un qui porte la flamme olympique et derrière lui, un village français brûle.
Oui, parce que bah, c'est l'image de la... C'est la flamme, quoi. La flamme, ça peut mettre le feu, quoi. C'est... Donc, inconsciemment, le porteur de la flamme, derrière lui, ça brûle. Voilà.
Il y avait quelque chose d'un
peu... C'est plus une idée visuelle, quoi, ou autre chose. Il n'y a pas un message particulier, non.
Vous diriez qu'il n'y avait rien de nihiliste ou de punk dans le geste?
Oui, non, oui, il y a un peu cet esprit-là, oui. Dans les films de l'époque, oui. Oui, oui.
Chez vous aussi, à cette époque-là, dans votre esprit, il y a un désir de,
oui.
de légèreté et de peut-être renverser la table?
Oui, un peu, oui. Oui, oui. Fantaisie. Sans plus, hein, c'est pas la révolution que dans mes films, quand même.
Non, mais malgré tout, on voit aussi que vous portez, alors bon, les bidas en folie, puis les bidas en montant-garde. Malgré tout, vous portez un regard sur ce que peut être, sur ce que peut-être vous avez vu aussi à travers votre service militaire, sur ce que peut être l'armée, le pouvoir, les gens de pouvoir. Vous les tournez quand même bien en ridicule.
Oui, enfin, c'est bien. Bon, c'est normal, ils ont le pouvoir, il faut qu'on puisse se moquer un peu du pouvoir, quand même. Déjà, bon, ceux qui l'ont, ils l'ont, c'est déjà beaucoup, quand même. Si on peut, en plus, ne pas se moquer d'eux, alors c'est qu'ils l'ont trop. Hein. Voilà, oui. Enfin, j'ai fait mon armée, j'ai été officier, vous voyez, donc... j'ai joué le jeu de l'armée, quand même.
Vous aviez pas de compte à régler, vous diriez que...
Non.
Non.
Non, non. Non, c'est une tradition. C'est un peu c'était la fin d'une tradition de films, de comiques troupiers, sinon. Si on peut appeler ça. Enfin, le terme n'existe plus actuellement, comiques troupiers. Il n'y a pas de film sur l'armée. Il y a peu de films sur l'armée, en tout cas. Mais c'est plus dans la vie. L'armée n'est plus dans la vie des gens. En dehors du 14 juillet, quoi.
Une armée au milieu de laquelle errent des personnages un peu inadaptés, pour lesquels on a l'impression que vous avez beaucoup de tendresse.
Oui, oui, je les aimais bien, oui, oui, parce qu'ils sont pleins de fantaisie, parce qu'ils font ce qui leur passe par la tête, ils n'ont pas de programme particulier, si je veux de la musique, c'est un peu leur seule préoccupation, vous voyez. Je les ai arrachés de leur foyer de chez eux dès le début du film, dans les Bidas en folie. Voilà, c'est terminé. Vos parents, vous les revoyez plus. Voilà, vous partez à l'aventure, vous vivez votre aventure, petite aventure. Voilà, et puis l'aventure de l'armée se présente. Et bon, bah, vous allez, vous allez vivre encore une autre forme d'aventure. Voilà. Et eux, ils ne rêvent que d'une chose, c'est vivre l'aventure d'un concert rock.
Et vous, votre aventure avec eux se termine au bout de 4 films.
Quatre films, oui.
C'est des films qui sont donc symboles d'une époque, comme vous le disiez, une époque légère et une époque où le cinéma était peut-être un petit peu plus, et c'est pas péjoratif, mais un peu plus facile à faire, peut-être un peu plus facile d'accès. Vous disiez
non, il y avait moins de films.
Il y avait moins de films, mais on vous a donné des opportunités de manière
simple. On m'a donné l'opportunité d'en faire un. Comme actuellement, il y a quand même bon les dernières où il y a 2 ans, on a tourné 350 films. À l'époque, on en tournait 120. Vous voyez, donc il y a des films qui sont... Non, il y a de nouveaux films, il y a énormément de premiers films, encore actuellement.
Et vous parleriez d'une sorte d'âge d'or du cinéma, d'un moment où le cinéma
pour
était
moi,
peut-être
oui.
plus fluide.
Mais...
Que pour vous, vous pensez?
Non, ça a été une belle époque. Et pourtant, en tout cas pour le cinéma français, apparemment... Il y a une sorte de nostalgie de cette époque-là, je crois que chez les spectateurs, parce qu'on revoit maintenant tous ces films, on repasse à la télévision. non seulement de cette époque-là, mais même l'époque précédente. Vous voyez les films de Gabin en noir et blanc, Fernandel, on les revoit à la télévision régulièrement, très régulièrement même. Vous voyez, c'est, et il y a beaucoup de gens qui prennent beaucoup de plaisir à les revoir. Donc, oui, ça avait l'air d'une époque assez, assez riche, assez intéressante, oui.
Et puis qu'il y avait du panache aussi, parce que à la fin de votre collaboration avec les Charlots, vous décidez une fois autour d'un réveillon avec Christian Fechner, qui était un producteur important, de faire deux films l'année.
Oui, c'est une boîte de nuit à Montparnasse. On est tous 31 décembre. Alors Christian me dit bon, cette année tu me fais un film. Et je lui dis non, je t'en fais deux. Oui, j'avais. Bon, je voyais tout double. Et je lui en ai fait deux.
Et ça s'est passé comment? Ces deux tournages en un an? Comment on fait films en un an? On les écrit, on les tourne, on les post-produit en un an?
J'étais pas producteur, hein, quand même. Non. Mais oui, je les ai écrits et tournés. Oui. Voilà.
Donc votre première collaboration post-Charlot
C'était La moutarde de Montonnet. Oui. C'est un film que j'avais... C'est un sujet... que j'avais déjà travaillé très longtemps, avant d'être metteur en scène, bien avant d'être metteur en scène. C'est une histoire que j'ai imaginée autour de deux comédiens, qui n'ont jamais tourné ensemble d'ailleurs, qui sont Belmondo et Bardot. Lui, dans mon esprit, c'était un paparazzi, et évidemment, Bardot, c'était la star. Et Bardot, et ce paparazzi, vraiment, l'emmerdait beaucoup, Bardot. Elle a trouvé un moyen de s'en débarrasser, c'était de le présenter aux médias comme son nouvel amant. Et c'est le paparazzi qui devient vedette et qui devient la victime des paparazzi. C'était une idée comme ça, bon, que j'ai. Alors quand j'ai écrit pour Pierre Richard, bon, je le voyais pas paparazzi, Pierre Richard. Vous voyez, donc j'ai imaginé qu'il avait un ami paparazzi, et lui, il était prof dans un lycée, et il rédigeait les articles du paparazzi.
Et ça, donc, c'est un film que vous avez fait avec Christian Fechner, qui était un producteur. C'est aussi peut-être pour, à travers ce genre de figure, qu'on parle d'âge d'or. Parce que
Fechner,
Fechner et Berry. Qui étaient deux producteurs très flamboyants et importants, dont aujourd'hui on garde un souvenir nostalgique.
Pas du tout à l'époque. Qui démarrait Fechner, son premier film.
Qu'ils sont devenus, oui, qu'ils le sont devenus.
C'est...
Voilà. C'était des personnalités intéressantes, importantes dans vos vies, j'imagine.
Ah bah oui, on a fait pas mal avec Berry, avec Fechner. Berry, je connaissais avant. Claude, que je l'avais rencontré sur... il avait un petit rôle dans La ligne de démarcation. Vous voyez. Après, il m'a proposé... j'ai tourné un court-métrage comme je suis assistant. Il réalisait un sketch pour un film à sketch. Mmh. Et puis un jour, il m'a proposé un film. On se voyait souvent, on se croisait souvent. Et un jour, il m'a proposé son premier film comme chef-op, Le vieil homme et l'enfant. Je lui ai dit, Claude, j'ai jamais été chef-op. Il dit, non, moi, j'ai jamais été metteur en scène. Il me fait, bon, bah oui. Donc, je lui ai dit, écoute, c'est formidable. C'est bon. Mais le producteur ou la maison de production qui finançait le film, ils ont dit, écoute Claude, tu fais ton premier film, prends un chef-op qui a déjà fait quelques films. Voilà, ils avaient peut-être raison, hein, parce que ils ont pris Jean Panzer qui a fait le film, que je connaissais d'ailleurs très bien. Voilà, ça c'est pas...
Mais... L'avenir leur donnera tort, puisque vous avez su faire du cinéma.
Oui, mais enfin, c'était peut-être pas le moment d'être... Je ne me suis pas enraciné dans le métier de chef opérateur, vous voyez.
Vous l'envisagiez, vous ne l'avez jamais envisagé comme une fin en soi?
Non. J'ai fait quatre films, dont Élise ou la vraie vie, comme de Drache, qui a été sélectionné au Festival de Cannes. Mais je sentais que c'est... Voilà, j'étais préoccupé par autre chose, quoi.
Et Claude Berry, ensuite, vous suivra sur à peu près, pas tous vos films, mais sur beaucoup de vos films.
Oui, beaucoup.
Et jusqu'à La Boîte, qui est votre avant-dernier film, même.
Oui, oui.
Ça a été une collaboration importante. C'est important d'avoir un producteur comme lui, de renom.
C'est pas seulement le fait qu'il soit de renom, c'est qu'on se connaissait bien. On est né, je crois, à quelques mois d'intervalle. On a grandi, tous vécu à Paris. Il y a beaucoup de choses en commun, quoi. C'est facile de discuter.
C'était quasiment familial, en fait, enfin, entre guillemets.
Un peu, oui. Oui. Oui, je connaissais sa femme. J'ai connu ses enfants. Son frère, son beau-frère, Rassam. Oui, oui.
Et de la même manière, vous avez travaillé dès ses premiers films, et puis ensuite une bonne partie de votre carrière avec beaucoup de collaborateurs fidèles qui sont revenus. Alors on a parlé de Didier Caminca, il y a Nicole Saunier, votre monteuse aussi. Il y en a d'autres. C'est un cinéma que vous avez fait pendant 50 ans, un cinéma. De famille, là aussi, un peu d'une certaine
pas complètement. Oui, oui, enfin, c'est nuancé. Faut nuancer, là, parce que. Non, ça dépend des chefs opérateurs, par exemple. Bon, vous faites une comédie, vous voulez tourner vite, vous demandez, vous avez besoin d'un chef opérateur, c'était Paul Bonis qui éclairait très vite, il envoyait des projecteurs vers le plafond, ça envoie une lumière, voilà, tout, vous pouvez changer d'axe, la lumière est prête, etc. Et moi, j'étais à la caméra, j'étais caméraman de mes films, de pas mal de mes films, comme ça. Mm-hmm. Donc, vous avez la caméra, un zoom, vous pouvez zoomer sur un acteur, après zoomer sur un autre acteur, faire un plan large, un plan serré, sans besoin de parler à quelqu'un. Vous voyez? Donc, par contre, si vous tournez un film en scope, avec une vedette qui doit être éclairée comme une star, mm-hmm. vous voyez, il faut un chef qui soit un peu un chef hollywoodien. Vous voyez, Renoir, Deca, c'était ce genre de chef opérateur qui savait sublimer un visage féminin.
Mais à l'écriture, en revanche, vous avez
donc
souvent
vous changez,
été...
vous voyez, comme on change de comédien, en fonction du personnage.
Voilà. Mais à l'écriture, vous avez souvent travaillé avec les mêmes collaborateurs.
Oui, revanche. J'ai travaillé, Kamaka, au dialogue, et même au scénario, et puis à partir des ripoux avec Simon Michael, avec qui j'ai écrit beaucoup de films. Oui.
Et donc là, après Les Charlots, La Moutarde me montonnait, on est à la mi-temps des années 70, et vous avez déjà fait un peu moins de 20 millions, 17 millions de spectateurs.
Peut-être.
Question bête, mais ça fait quoi ? D'être déjà un cinéaste aussi populaire en si peu de temps.
Non, ça fait rien. Ça change pas votre vie. Ça aide à rien. Quand il faut écrire, il faut écrire. Quand il faut tourner, il faut tourner. Vous pouvez pas arriver avec une pancarte marquée avec le nombre d'entrées. Voilà, vous êtes obligé de vous faites votre métier, quoi. Ça ne simplifie rien.
Merci.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jean-Christophe Brianchon avec Claude Zidi. À voix nue, réalisation Julie Béressy, prise de son Gilles Gallinaro, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur l'appli Radio France.